pas trop fatigué? On va dormir un peu? Ok. Je vais essayer de vous tenir en éveil. J'aurai tantôt la copie du PowerPoint, donc vous pourrez prendre des notes là-dessus. Ok? Donc, la formation de cet après-midi, ce que moi je voulais plus m'orienter ou donner comme objectif, c'est, dans un premier temps, on va faire un survol sur que c'est les relations humaines. Et dans un deuxième temps aussi, c'est comme évangélisateur, ce que vous allez rentrer en contact avec les gens, dans ma façon de voir les choses, la seule personne sur qui j'ai un contrôle quand je suis en relation humaine, c'est sur moi. J'ai pas le contrôle sur la personne en face de moi. J'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qu'elle va comprendre, qu'est-ce qu'elle va saisir, qu'est-ce qu'elle va retenir, qu'est-ce qu'elle va accepter, qu'est-ce qu'elle acceptera pas. Donc, je suis cette personne-là, comme évangélisateur, je suis cette personne-là qui doit développer des habiletés pour me regarder, pour devenir encore meilleur évangélisateur. C'est juste sur moi que j'ai le contrôle. Donc, j'ai voulu vraiment mettre un petit peu plus l'emphase sur chacune de vos personnes dans le rôle que vous allez aller jouer tout à l'heure dans le porte-en-porte. OK? On va amorcer le travail juste par une première réflexion avant de commencer à vous splasher ça comme information. On va aller par réflexion avec soi-même. OK? On va se regarder. Et puis, au bout d'une heure, j'espère que vous allez être capable de voir mais qu'est-ce qu'il y a comme force en vous. Puis, qu'est-ce qui demeure à travailler en vous? Okay? C'est mon objectif de fin de formation là, dans une heure. Si tu veux, on va aller à la première. Donc, dans la mise en action, fais défiler les trois questions. Okay. Je vais vous passer une feuille. Vous avez tous un stylo crayon. Donc, de façon tout à fait individuelle, et même pour ceux qui ne sont pas, qui font pas partie de JAFSA, vous pouvez prendre une feuille aussi, okay, et faire cet exercice-là, parce qu'on est tous, à sa façon, évangélisateurs. Okay? Donc, je vous invite à prendre une feuille. Ce n'est pas une thèse de doctorat que je veux. Okay? Donc, allez-y spontanément. On va lire les trois questions et regarder. Je vais juste attendre que les feuilles soit passé. Donc, ça va sur cette feuille-là. Donc, ça va être la réflexion des trois questions. C'est une feuille qui est confidentielle à vous. Je ne ramasse rien. C'est vraiment comme pour vous inciter à regarder à l'intérieur de vous. Et au bout d'une heure, on va regarder quelles ont été vos réponses. Vous allez regarder chacun pour vous autres la réponse à ces questions-là. OK, je vous donne à peu près juste 2 minutes, hein. C'est pas, faut que ça monte, là, spontanément. OK, faut pas que ça aille trop dans le cerveau, là. Donc, quelles sont mes intentions dans la sortie que je ferai dans quelques heures? Donc, ça dure d'à peu près 1 heure et demie. OK? Quelle est mon intention à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me motive à aller vers les autres? Là, vous n'êtes pas obligé de répondre aux trois questions. C'est vraiment là, je veux juste vous projeter vers une réflexion. Quel sera mon état intérieur pendant cette sortie? Okay? Vous n'êtes pas obligé d'écrire les questions. Faites juste être à l'écoute des questions. Prenez un temps de réflexion et écrivez vos réponses. Laissez parler votre cœur, pas votre tête. OK. On plie la feuille, on la met de côté. On y reviendra dans une heure. C'est juste comme pour vous mettre dans le mouvement de se regarder à l'intérieur de soi pour aller évangéliser tantôt. OK, on y va. Karine, tu peux me... je vais vous brosser un petit peu le tableau. La présentation va se faire en 4 parties. Donc, une partie 1 qui est l'introduction. La partie 2 qui va regarder un peu plus la communication globalement. La partie 3, on va regarder celui qui va recevoir votre message, OK? Comprendre un peu dans quoi il est, qui il est. Puis la quatrième partie, on va regarder, c'est la partie la plus importante, on va regarder la partie intention. Quelle est mon intention quand je vais aller évangéliser? Et c'est de là, c'est de l'intention que vous avez dans votre cœur que vous allez avoir une réussite ou non dans la relation avec l'humain. OK? Voilà. Donc, on commence en guise d'introduction, on va se dire qu'est-ce que c'est des relations humaines. Mais des relations humaines, ça veut dire que quand moi, je rentre en relation avec au moins un tiers, donc avec une personne en avant de moi. Qui pense que les relations humaines, c'est aisé? Rentrer en communication avec quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose de facile ou quelque chose d'assez compliqué? Ça demande un art. Si on veut bien, si la relation humaine, on la veut, harmonieuse. Donc, ça demande un art. Et un coup qu'elle est installée, ça demande aussi quelque chose de très grand pour bien gérer tout ça. OK? Moi qui fais de la thérapie conjugale, les couples, quand ils commencent ensemble, c'est tout feu, tout flamme. Ça se complique un peu quand le honeymoon est passé. Et puis, quand les conflits arrivent, ah, ben là, ça devient de plus en plus coriace. Okay? Donc, c'est compliqué à installer, un coup installé, c'est difficile à gérer. Quand ça va bien, pas de problème. Quand ça va pas bien, le temps est long. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, les relations humaines, c'est un art. Ça se développe. Okay? La communication se développe. C'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui se travaille. Ça exige un travail sur soi-même. Et pas sur l'autre. Ça me demande un travail sur soi-même afin de vaincre ces tendances trop personnelles qui engendrent le conflit avec autrui. Donc, quand il y a un conflit avec l'autre, il faut toujours que je me pose la question, est-ce que c'est nécessairement l'autre qui est dans le trouble? Est-ce que c'est l'autre qui est le problème? Ou c'est moi aussi qui a peut-être généré le problème? Moi, je me dis toujours, quand je suis en relation avec quelqu'un, j'ai 50% de responsabilité d'un conflit ou 50% de responsabilité de l'harmonie dans ma relation avec l'autre. Donc, s'il y a un conflit, il ne faut pas que je regarde ce que l'autre fait. Vous n'avez pas de contrôle sur l'autre personne. Donc, s'il y a un conflit, ça veut dire qu'il faut que je me regarde moi. Où est-ce que j'ai manqué? Où est-ce qu'il y a des choses trop personnelles qui ont avorté la relation humaine? Je me suis permis, sous les bons conseils de Benjamin et de Aaron, je me suis permis de mettre quelques versets bibliques pour comme donner un empan un peu plus spirituel, pour être plus dans... que vous rejoigniez le monde de la psychologie puis le monde de la spiritualité. Donc, en Luc 9, 23, puis ce verset-là, on peut le comprendre selon deux interprétations. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc, si je veux être en relation avec Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je renonce à mes tendances trop personnelles, à mes tendances trop égoïstes. Bon, ça, c'est la première interprétation qu'on va faire de ce verset-là. Mais la deuxième interprétation qu'on peut faire de ce verset-là aussi, c'est si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que si quelqu'un veut suivre mes pas, il veut devenir évangélisateur, disciple, il va devoir renoncer à lui-même. Donc, travailler sur mes tendances trop personnelles. Donc, porter un regard à moi, me raffiner, me peaufiner comme être humain pour devenir de plus en plus apte à suivre les traces de Jésus. Donc, en guise d'introduction, on va s'arrêter là. Partie 2, on va regarder les vecteurs de la communication. C'est peut-être du déjà connu ou de la nouveauté. Pour chacun ou pour... on va y aller quand même rapidement. Dans les vecteurs de la communication, j'ai retenu deux grands vecteurs, le langage et les qualités requises dans la communication. Okay? On va avec le langage. On a deux types de langage, le langage verbal, le langage non-verbal. Pour tout de suite, et là, c'est pour donner une allure à ce qu'il y a, les petits bonhommes qui sont là. En communication, il y a un émetteur, il y a une intention de message et il y a le récepteur. Bon. Actuellement, l'émetteur, c'est moi. Vous écoutez tout, donc vous êtes tous des récepteurs. Okay? Et je tente autant que possible de rendre mon message le plus clair pour que vous puissiez le recevoir sans trop de distorsion. Mais la distorsion, ça existe. C'est là. Okay? Donc, la distorsion, c'est le message que je tente de vous livrer va être interprété par chacun différemment en raison de bruit qu'on va appeler, de distorsion. Donc, supposément, on a deux types de distorsion. Okay? Là, je vous donne les grandes lignes. Là, okay? Les deux grands types de distorsion. Les facteurs intrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est un bien grand mot, cela. Là. Ça veut dire, si moi je suis en forme aujourd'hui, si moi je me suis couché de bonne heure hier soir, si moi je viens ici et j'ai un intérêt à venir ici, si j'ai bien préparé mes choses, donc tout ce qui dépend de moi va bien. Ça veut dire que le message que je vais vous livrer va être assez clair. Okay? Il va bien se rendre. Si par contre, ça ne me tente pas d'être ici après-midi, il y a des facteurs intrinsèques à moi, conscients ou inconscients, qui vont faire que le message ne se rendra pas à vous avec autant de limpidité et d'intérêt. C'est ce que ça veut dire. Le facteur intrinsèque, c'est ce qui vient de moi. Vous avez vos facteurs intrinsèques aussi à vous. Okay? Pour ceux qui ont trop mangé tantôt et qui ont... ça, c'est le facteur intrinsèque à vous. OK? S'il y en a qui ont mal à la tête, ou s'il y en a qui ont trop chaud, s'il y en a qui ont hâte de sortir dans une heure pour aller faire du porte-en-porte, et ça va-tu finir, elle-là? Là? Donc, ça veut dire que le message ne se rendra pas aussi bien que l'autre qui est toute oui et qui est très concentrée. Ça, c'est les facteurs intrinsèques. On va revenir tantôt parce que l'intention, comme titre, ça fait partie de votre facteur intrinsèque. Et puis, le récepteur, c'est-à-dire la personne qui va être en arrière de la porte que vous allez cogner, okay, elle en a des facteurs intrinsèques aussi. Donc, même si vous allez porter le message de Jésus avec toute la bonne volonté qui existe, mais si la personne en arrière de la porte est en dépression, si la personne en arrière de la porte vient d'avoir une grosse chicane conjugale ou autre chose, son facteur intrinsèque à elle va faire en sorte que, puis là je peux reprendre un peu, Jonathan, ce que tu mentionnais pendant le culte. Donc, il faut tenir compte de qui est l'autre quand je suis comme émetteur. Le facteur extrinsèque, ça c'est extérieur à moi ou au récepteur. Bon. Exemple, tantôt, j'ai commencé à vous parler et les feuilles ont été distribuées, puis personne m'écoutait. J'ai arrêté. Je ne parle pas parce que là, j'avais parlé dans le vide. Okay? Donc, la distribution de feuilles, c'est le facteur extrinsèque. Donc, disons, supposément, pour mettre plus à votre diapason, quand vous allez sortir tantôt, vous parlez à une maman, à une madame, puis là, l'enfant arrive. Là, vient comme, puis là, bon, OK, la maman, là, est comme pris ailleurs. Elle vous écoute, mais elle est pris là, puis elle vous écoute, arrêtez. Il y a un facteur extrinsèque ici qui va couper la communication. OK? Arrêtez, parce que peut-être que dans le temps où elle va être comme plus en face, vers son enfant, c'est peut-être là le message le plus important que vous aviez à lui dire. Mais si vous continuez à persister à ne pas tenir compte du facteur extrinsèque, vous allez perdre la personne. OK? Là, je suis vraiment plus au niveau de la psychologie. OK? Je ne suis pas dans le... Jonathan, lui, beaucoup plus ce matin, mais c'est complémentaire, là. OK? C'est très complémentaire. Je pense que Dieu va ramener la possibilité que la dame puisse entendre ce que vous aviez à dire. Et quand je vous dis, là, moi, je m'assois, je suis dans mes bottines de psychologue. OK? On y va. Donc, le langage verbal... Les trois, OK. Le langage verbal, ben c'est le langage qu'on va utiliser avec la parole. La parole nécessite deux choses. Bien, que je sache clairement qu'est-ce que je veux dire. Puis après ça, il faut que ça soit aussi coloré par l'émotion. Il faut que je vibre ce que je veux dire. Et par la suite, la voix va pouvoir sortir. Donc, supposément que je suis avec mon amoureux, OK? Je pense à lui, il arrive, je vibre. Quel va être mon genre de voix? Est-ce que je vais crier? Donc, ça va être doux, OK? Donc, le langage verbal va utiliser majoritairement l'appareil phonologique, mais il faut quand même tenir compte que la pensée et l'émotion sont là. Donc, vous allez voir tantôt, tout est interrelié. Dans l'intention, on va aller voir, comme disciple, vos pensées, et comme disciple, ce que vous avez dans le cœur. Et avec ça, vous allez avoir une voix qui va porter votre message. Jonathan, tu disais, attendez ma voix. OK, je trouve ça génial. Va à la prochaine. Oui, va à la prochaine. La voix. OK? Qui est l'instrument de musique. C'est notre instrument de musique à nous. Donc, quand vous êtes dans le porte-en-porte, utilisez votre voix. Votre voix doit être enrobée de bonté. Votre voix doit être enrobée de chaleur, d'amour. Votre voix doit porter aussi une sagesse, donc des pensées en toute sagesse. Donc, si vous avez ces trois domaines-là, donc tout ce que nous pensons, pensée, sagesse, tout ce que nous vibrons, donc émotion, cœur, et tout ce que nous vivons, donc la vie, le souffle, va se traduire par ma voix. Vous avez sûrement dans votre répertoire des gens que vous trouvez qui ont une très belle voix. Puis il y en a d'autres que la voix, ça écorche un peu l'oreille. OK? Voilà, à moins d'une pharyngite ou d'une laryngite ou des nodules et des cordes vocales, mais si tout va bien au niveau de l'appareil phonologique et que la voix n'est pas belle, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne-là. OK? Donc, surveillez votre voix. Il faut que ce soit le plus bel instrument de musique. OK, on y va, Karine? Le langage non-verbal, tu vas jusqu'à la fin. OK, par exemple, pour tout de suite. Le langage non-verbal, c'est le langage qui fait appel à tous nos sens. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout ce qui vient avec, le ressenti, le kinesthésique. Il y a un psychologue, Paul Ackman, qui... on va voir quelques exemples du langage non-verbal. On parle du sourire. Paul Ackman, le psychologue, a répertorié dans notre visage, majoritairement, 19 sortes de sourires. Hein? Je ne sais pas combien, il y a autour d'une trentaine de muscles qui se mobilisent durant le sourire aussi, ou un peu plus. Donc, dans le sourire, des sourires charmants, des sourires gênés, des sourires agressants, des sourires... Celui que vous devez avoir tantôt, c'est le sourire sincère. Parce que l'être humain ne se fait pas leurrer dans le langage non-verbal. Okay? On peut leurrer quelqu'un dans le langage verbal, mais dans le langage non-verbal, on ne peut pas leurrer personne. C'est comme une question de ressenti. Okay? Donc, si je souris gênée, la personne le sent. Ça lui donne une force, puis... Quand on lui dit « je suis gênée », ah oui, mais la personne doit avoir agi en sachant inconsciemment que vous êtes gênée. Ça va? Donc, qu'est-ce que le sourire sincère? Le sourire sincère, on va le voir tantôt dans les différentes qualités de l'émetteur, mais le sourire sincère, c'est le sourire qui vient vraiment du cœur. C'est un sourire sans défense. C'est un sourire qui annonce notre vulnérabilité. Hein? Je pense que lorsque Harold sourit, son sourire n'est pas menaçant, son sourire est vrai. Hein, quand on parlait là, de Harold ce matin avec sa vulnérabilité, sa transparence. Donc, lorsque le sourire est sincère, et c'est ça qui est important, donc c'est quelque chose à avoir sur vos lèvres cet après-midi, lorsque le sourire est sincère, il touche quelque chose d'essentiel à chaque être humain, c'est chaque être humain est sensible à la bonté. Que ce soit un criminel, que ce soit une prostituée, que ce soit le pape, que ce soit qui on veut, quand on donne un sourire sincère, on donne une bonté à l'autre. Et le cœur de l'humain s'effondre. Okay? Donc, s'ouvre, prend beaucoup, se dilate. Donc, on va juste cliquer encore une fois. Ça, c'est juste comme un petit cue comme ça. C'est un auteur inconnu. Quand j'ai écrit un article sur les sourires, je trouvais ça super. Je me disais, mais comme chrétien, vous devez savoir cela. Là. Si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous espérez, soyez généreux. Donnez-lui le vôtre. Car nul n'a autant besoin de sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Okay. Et ce matin, puis bon, Janine puis Corinne pourraient le voir, pourraient le dire. Ce matin, on cherchait notre chemin. Et à deux, trois reprises, on a eu à descendre du véhicule. Puis à chaque fois que je m'en allais vers la personne, qu'est-ce que vous pensiez que j'avais dans le visage? Le sourire. OK? Avec un petit ton d'humour. OK? Puis là, je disais aux gens, j'ai besoin d'informations routières. Puis là, les gens sentent que je suis vraiment pas agressante, que je suis joyeuse, que ça va bien ma vie, puis que je suis tout à fait très vulnérable et pas menaçante. Et les gens nous ont souri. On avait une dame, là, d'un certain âge. Elle nous a même dit, ah, merci, ça fait une bonne journée de moi. C'est bon, ce qu'on a dit. C'est pas sorcier. OK, on y va, Karine. Un autre, bien, le regard. Aaron a parlé ce matin. Okay. Au Québec, oui, effectivement, il faut regarder les gens dans les yeux. Juste une petite anecdote, là, peut-être après un mois et demi, deux mois, je travaille dans les écoles et on avait rencontré des intervenantes, on avait rencontré un papa haïtien. Et connaissant bien les Haïtiens de parole, Benjamin, ta. Donc, moi, je suis plus sensibilisée à votre façon d'être. Donc, j'ai pu comprendre que le papa regardait comme ça. Okay. Puis là, les trois autres intervenantes, qui étaient des femmes, ont commencé à dire, mais c'est misogyne, ils nous aiment pas, on se bat aux autres, c'est les hommes qui... Bon. Et les femmes sont soumises, et... fait que là, un coup qu'on a eu terminé la rencontre, j'ai dit aux enseignantes et à l'intervenante, j'ai dit, non, là, vous n'avez rien saisi, là. Le monsieur, s'il ne vous regarde pas dans les yeux, c'est pas parce qu'il est indifférent à vous ou qu'il est irrespectueux, c'est parce que c'est sa façon à lui d'être. Okay? Donc, si, mais là, on n'a rien à faire de ceux qui sont en arrière des portes, regardez vos yeux cet après-midi. Okay? Moi, c'est le travail à l'intérieur de vous que je veux faire. Regardez vos yeux. Il faut qu'il aille vers les gens à qui vous parlez. Faites attention pour pas que ce soit intrusif, par exemple. Si c'est intrusif, les yeux se baissent. Okay? Et là, il y a une fin de communication. L'espace personnel, bien, pour les besoins de la cause, Harold a parlé un petit peu. Dans l'espace personnel, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous allez dans le porte-en-porte, la psychologie humaine, elle est faite comme ça. Si je ne connais pas la personne, je la tiens à une longueur de bras. Ça veut dire à peu près 3 pieds. N'embarquez pas plus. Okay. Ne soyez pas intrusif, vous allez être menaçant. Et c'est là où Sabrina dit, ben, la personne va reculer, ben, la personne va se tourner, elle va retourner. Puis là, si vous êtes encore trop proche, si vous ne saisissez pas, à un moment donné, la personne va commencer à se sentir vraiment incommodée. Et tout ce que vous lui dites, même si ça a du sens, ça va être menaçant. Okay? Donc, tenez-vous à peu près à 3 pieds. La posture ouverte, posture fermée, posture égalitaire ou autoritaire. Bon, disons supposément que vous êtes dans une porte et la personne devient menaçante pour vous. On va être porté à... OK, on se met de côté, puis OK. Donc, soyez juste à l'écoute de votre langage non-verbal. Ça va? Donc, revenez en avant. Vaut mieux être de face devant la menace que d'être de côté. Okay. La position égalitaire, autoritaire. Supposément qu'une personne, vous allez aller là, et il y a peut-être des gens qui vont être assis dans leur chaise ou bon. À ce moment-là, tenez-vous à 3 pieds pour pas que la personne sente que vous êtes debout puis qu'elle soit assise. Ok, c'est vraiment une relation autoritaire. Ok. Donc, si elle vous invite à vous asseoir, même si vous êtes là juste pour 3 minutes, asseyez-vous. Okay? Asseyez-vous pour être à la même hauteur que sinon ça devient trop menaçant, vous avez une autorité sur. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens, spontanément, vont se lever parce que vous êtes debout. Okay. L'écoute passive, l'écoute active. L'écoute passive, c'est... Là, on regarde. L'écoute passive, la personne ne se sent pas encouragée à aller vers quelque chose de plus au niveau de la communication. L'écoute active, si je pose des questions ouvertes, je fais oui, je suis en rétroaction, je fais de la reformulation dans une discussion qui est beaucoup plus dynamique. Ça va? Donc, quand vous posez des questions, il ne faut vraiment pas que vous posiez les questions pour que la personne réponde oui ou non. Est-ce qu'on peut vous parler de la religion? Oui. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Alors, pendant ce temps-là, vous allez transpirer, vous autres, là. OK, ça va être, donc, est-ce que la religion fait partie de votre vie? Oui. De quelle religion ou de quel groupe ou quelles sont vos croyances? Ou, OK? Donc, ça, c'est beaucoup plus une communication ouverte, question ouverte. Et quand la personne commence à vous dire des choses, allez-y dans une écoute active. Donc, vous posez des questions, vous reformulez. Ça va? Vas-y, Karine. La partie 2, qualité requise de l'émetteur, donc ça c'était l'autre vecteur. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous devez avoir dans votre personnalité, dans votre cœur, dans votre intérieur. On va commencer par deux versets. Le fruit de l'esprit, vous le connaissez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, 23. OK? Donc, les qualités requises de l'émetteur, du disciple, c'est ça qu'il fallait travailler. C'est ça que ça veut dire. Dans le verset 1, Timothée, ou c'est Timothée 2, 7, 8, « Nous aurions pu nous conduire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur. » Ça, c'est les disciples de Jésus qui nomment ça. OK? Donc, eux autres disent, « On avait la compétence pour avoir l'autorité. » Ah, je m'excuse, hein, je ne vous ai pas remis les feuilles. Je vois là que les gens prennent des notes. Je m'excuse. Ah! Dieu fait bien les choses. je vais pouvoir recommencer. Au complet? Non. Oui, c'est ça. Ah, c'est pas... Oh, OK. Par ici, ça va? Oui? OK. Donc, ce qu'il faut comprendre dans les qualités requises, les disciples de Jésus disaient, on aurait pu aller avec autorité. Dans leur sac à dos, qu'est-ce qu'il y avait? La douceur, la bonté. Okay? La douceur, la bonté, c'est la résultante des qualités à travailler. OK, Karine? Donc, en Philippiens 2,5, on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Quand je vous disais tantôt là, que comme disciple, comme évangélisateur, c'est une job qui n'est pas nécessairement facile. Ça ne se fait pas en criant bine. Jonathan le disait, il faut travailler pour être, avoir cette expérience-là. Okay? C'est même pas, c'est plus que l'histoire de vie. Ça va? Donc, laissez-vous pas décourager, là. Okay? Mais il faut savoir travailler sur soi pour tenter d'aller chercher les mêmes sentiments qui étaient en Jésus pour pouvoir être un bon disciple du Seigneur. Donc, une première qualité, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre, c'est quoi? C'est d'avoir un amour désintéressé qui pousse à faire le bien autour de soi. Donc, dans vos petites réponses là, que vous avez écrites tantôt, là, si vous commencez à retrouver des qualités, là, bien là, c'est correct. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, et comment je vais... comment je vais comme m'inculquer à l'intérieur de moi le souci de l'autre, c'est de considérer l'autre égal à moi. L'autre n'est pas plus inférieur et l'autre n'est pas plus supérieur que moi. C'est un être humain comme moi, avec ses forces et ses faiblesses aujourd'hui. Demain, ses forces et ses faiblesses changeront. Okay? Et demain, mes forces et mes faiblesses à moi changeront aussi. Tout est en mouvance dans la dynamique humaine. Donc, l'autre égalitaire à soi, l'autre est une créature de Dieu comme soi. Donc, si vous partez avec ça dans votre pack-sac d'évangélisateur comme qualité, ah ben là, vous pouvez faire un bout. En Matthieu 14, 13, il dit « Quand Jésus vit la foule, il fut ému de compassion. » Mais la compassion, c'est l'optimum, la partie optimum du souci de l'autre. Donc, Jésus avait ça. Bien, si Jésus l'a, il faut tenter de l'avoir de plus en plus. Il faut laisser vibrer son cœur à l'autre qui est en face de soi. Deuxième point, l'humilité. L'orgueil de l'être humain. Dresse les êtres les uns contre les autres. L'humilité rétablit l'harmonie. OK? Puis comment on devient humble? Est-ce que c'est en se rabaissant? Pas du tout. C'est pas bon pour la psyché. C'est pas bon pour la santé mentale de se rabaisser. OK? Comment je vais être humble? Comment je vais apprendre la belle humilité? C'est en portant le regard à un modèle. En haut. OK? Donc, si moi, je m'identifie à quelqu'un, à un modèle, quelqu'un de mieux que moi, bien, je vais avoir toujours l'impression d'être un petit peu petite à l'intérieur de moi parce que je me compare à plus grand que moi. Donc, quand je me retourne de bord et que je vois un autre être humain, pourquoi j'aurais de l'orgueil? J'ai un sentiment de petitesse à l'intérieur de moi. OK? Et en 1 Pierre 2:21, il dit « Christ, laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Mais comme chrétien, est-ce qu'on peut avoir meilleur modèle que Jésus? Donc, au lieu de juger Pierre, Jean-Jacques, tout le tour, il dit « Ah, moi je suis meilleure chrétienne. Ah, je suis meilleure chrétienne. Elle est moins bonne. Elle. » Non, non. Prenez le modèle sur Jésus. Et à côté, vous allez être humble. Vous allez être dans l'humilité. Ça va? Parce que c'est pas demain matin qu'on va ressembler à Jésus. Okay? La sécurité personnelle permet de laisser l'autre libre. Je pense que ce matin, il y a eu une intervention dans ce sens-là. Je ne sais plus là, qui était assise au bout là-bas. Et qui disait d'être grec et juif, et quel est le danger de me perdre là-dedans? OK, disons, supposément que vous parlez avec quelqu'un qui est musulman ou autre chose, vous pouvez quand même rester chrétien tout en mettant à sa couleur, en autant que vous ayez une sécurité personnelle. Et le plus bel exemple, sécurité personnelle, c'est une conviction que j'ai à l'intérieur de moi qui est inébranlable. OK? Donc, si comme chrétien, vous avez cette conviction-là, que tout ce que la religion adventiste ou tout ce que le mouvement chrétien adventiste vous a appris, que vous êtes vraiment convaincu, embarquez dans les pantalons des autres, embarquez dans les jupes des autres. Il n'y a pas de danger, vous allez revenir dans votre personnalité. Vous allez revenir dans vos croyances. Okay? N'ayez pas peur. Et là, je dis toujours aux gens, supposément que quelqu'un me dit, « Malina, t'es grosse. » Si je n'ai pas de problème de perception, la personne qui va me dire que je suis grosse, est-ce que je vais la croire? Non. Mais si j'ai un problème de perception, si je ne m'aime pas, si j'ai une tendance un peu anorexique ou... ça y est, ça vient de tomber dans une faille et puis là, c'est, tout mon monde va chavirer. Okay? Donc, quand vous allez évangéliser, ne regardez pas si vous avez de bonnes connaissances pour évangéliser. Regardez votre sécurité personnelle. Est-ce que je suis sûre de ce que je fais? Est-ce que je suis convaincue? Et puis là, il n'y a pas de danger. Il n'y a vraiment pas de danger pour vos croyances, votre identité,
religieuse.
Ça va? Bon. Et là, on verra tantôt, la sécurité personnelle, ça ne veut pas dire autoritarisme et j'impose. On va voir ça un petit peu différent tantôt. OK, Karine? C'est bon? L'indulgence, le discernement. Là, on commence à embarquer plus dans les qualités qui vont être plus au niveau de la sagesse. L'indulgence, le discernement, c'est le signe de grande intelligence qui nous permet de voir et de comprendre au-delà des apparences. Discerner, savoir juger, avoir ça là, sur le bout des doigts. Donc, d'aller au-delà des apparences, d'adapter nos réactions à l'environnement. On se disait tantôt on ne peut pas aller plus loin, c'est toi Benjamin qui le disait, on ne peut pas aller plus loin que ce que les gens sont conscients. On ne peut pas pousser plus loin. Donc, allons à ce moment-là utiliser notre discernement, notre indulgence. Donc, supposément que vous rencontrez quelqu'un tout à l'heure et qui est fermé, il a le droit. Il a le droit d'être fermé. On y rentrera pas ça, là, je veux dire, à coup de marteau dans la tête. Okay? Donc, ayez ce discernement-là de voir, bien oui, il y a des gens qui sont conscients. OK? Jusqu'où j'arrête? Je peux aller. Puis là, à un moment donné, on sent, là, je veux dire, si on éveille notre œil, on sent que là, oups, il faut arrêter cela. OK? Les comportements excessifs ou fanatiques, ça, c'est l'inverse de l'indulgence ou du discernement. OK? Comportement excessif ou fanatique, quand je regarde dans le dictionnaire, puis là, j'ai pris ça de deux sources différentes, là, OK? Ce sont, quand je dis ça, là, c'est, vous allez voir, j'ai mis en jaune les mots, puis je les ai mis en jaune pas pour rien, c'est parce que ça vient d'un autre bouquin, ça vient du dictionnaire pur et simple. Et ça dit complètement le contraire. Donc, des comportements excessifs ou fanatiques, les comportements qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas d'indulgence, ce sont des esprits, des comportements, des attitudes, des comportements animés d'un zèle. Et là, il faut faire attention. Le zèle, c'est un zèle qui va rendre aveugle, intransigeant. OK? Donc, à ce moment-là, on commence à tomber dans des comportements fanatiques. Faire attention. Pour une doctrine, une opinion. On va aller voir tantôt un petit peu plus loin le prosélytisme versus l'évangélisation. Certains disent que le fanatisme est la foi sans l'amour. C'est à réfléchir. C'est à méditer. Okay. Comme la sagesse sans l'amour, c'est dangereux. Comme l'amour sans la sagesse, c'est dangereux aussi. Il faut aller chercher l'équilibre. On dit, et ça je le souligne, faites attention, c'est dans les plus grands écrits, ce sont souvent les croyants qui découragent les autres de croire par des comportements fanatiques où il y a un manque de discernement, il y a un manque d'indulgence à la différence des autres. Donc, quand vous sortez tantôt, gardez ça en arrière de votre tête. OK? On y va? L'autre point, c'est le respect, la sagesse. Donc, on va passer vite parce que le respect, ça vous dit quelque chose. Donc, c'est respecter la dignité de chaque être humain. Chaque être humain est différent. On a à respecter la dignité des autres. On n'est pas mieux, pas meilleur que les autres. Respecter le libre arbitre aussi que Dieu a donné à chacune de ses créatures. Qui sommes-nous donc pour défaire ce que Dieu a permis? Dieu a dit, je donne le libre arbitre à chacun. Ne me suivez-vous pas? De faire le mal, le bien. OK? Et puis, qui suis-je, moi, pour dire que celui qui fait le mal n'est pas correct? Peut-être que ce qu'il fait, c'est pas correct. Mais que lui n'est pas correct? Non. Il y a des raisons en arrière de ça. OK? Donc, ayons du respect pour le libre arbitre que Dieu donne. On ne peut contraindre quelqu'un à s'ouvrir à la lumière. Quand je dis la lumière, c'est toute la vie spirituelle. On ne peut contraindre. OK? Il faut laisser Dieu faire son œuvre, comme Jonathan l'a très bien vu tantôt, à travers ses prières, et Dieu fait son œuvre. Rejeter, juger, mépriser un être humain, c'est déclarer qu'il n'est pas une créature de Dieu. C'est fondamental, cela, là. Quand on juge, on est en train de dire que c'est pas mon frère, ma sœur. Même s'ils sont pas dans notre rassemblement adventiste, chaque être humain est une créature de Dieu. Un oiseau est une créature de Dieu. Un arbre est une créature de Dieu. Tout est une créature de Dieu. Et si je ne respecte pas ce qui est autour de moi, je ne respecte pas Dieu. Et je me dis chrétien, j'ai plus de problème avec ça des fois. La sagesse. Donc, la sagesse, c'est un peu comme le discernement, l'indulgence. Les révélations doivent être adaptées aux besoins de celui qui l'écoute. Elles sont difficiles à révéler. Et la vérité est difficile à révéler. Et peu veulent l'entendre. Okay? Et on va comprendre ça un petit peu différemment. Mais celui qui veut révéler la vérité aux humains s'expose à beaucoup d'incompréhension. Et c'est tellement vrai que Jésus s'est fait crucifier. Okay? Donc, nous, comme humains, eh bien, quand vous allez être dans le porte-en-porte, si vous avez écrit quel va être mon état intérieur quand je vais sortir tantôt puis que vous dites « je suis morte de peur », vous avez raison. Vous avez une très belle perception de ce qui va se passer en dedans de vous autres. Oui, vous pouvez avoir peur. Oui, vous pouvez avoir confiance. Oui, vous pouvez être très motivé. Mais oui, on s'en va vers quelque chose qui fait qu'on va se faire crucifier aussi. OK? Donc, tout se mettre de savoir tout de suite. Comme ça, on se fait des mécanismes de défense. OK? L'autre? La partie 3, le récepteur, si vous voulez bien, on va aller juste au deuxième paragraphe. C'est Rose-Marie Charest, qui est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui a écrit dans la revue Psychologie du mois de mai sur les accommodements raisonnables. Et ce qu'elle dit, puis elle fait un bref survol, une belle description de comment le peuple québécois se situe face aux mouvements religieux, etc. Donc, elle dit, c'est la partie la plus importante, c'est la partie du bas, c'est l'expérience québécoise voit dans la religion surtout un facteur d'oppression, parce qu'elle a son histoire, là, la société québécoise. Donc, quand on parle de religion, on réactive les boutons de l'inconscience sur « être à peu ». J'ai été oppressée, moi, là-dedans, là. Okay? On m'a mis une camisole de force, là. OK, ça, je ne peux plus redonner ça. Je peux donner à ça. C'était de la soumission. Et c'est la peur refoulée. Le peuple québécois, au fur et à mesure, a pu commencer à sortir davantage qu'il vivait. Puis là, avec la religion, avec les doctrines, et là, il faudra encore repiler là-dessus, les Québécois ne veulent plus. Combien de femmes québécoises ont donné naissance à des enfants parce que les curés et les prêtres obligeaient. On a perdu les femmes dans l'Église. Okay? Combien d'hommes, au nom de la religion, a emboîté la femme dans sa cuisine québécoise? Donc, levez-vous de bonheur pour dire que la religion, c'est bon et c'est OK pour la santé globale. Le Québécois a été abusé. Il est très méfiant. OK? Donc, tombez pas comme de toute façon, il y a eu de bonnes techniques d'approche. Okay? Donc, ne tombez pas tout de suite au niveau des doctrines. On n'a pas parlé, pas du tout. Aujourd'hui, ne parlez pas de ça du tout. Autant que possible. À moins que quelqu'un soit très ouvert et veuille se faire baptiser demain. OK. Clique encore une fois, je pense. OK. Donc, ça c'était, même si tous les êtres humains ont une même structure, on a tous des yeux, un cerveau, des organes, des émotions, un cœur, ils sont tous différents dans leur sensibilité. Chaque personne est unique. On est différent dans notre compréhension, on est différent dans nos besoins, dans nos aspirations. Ils peuvent, et donc personne n'a la même perception des choses, de la réalité. Donc, quand quelqu'un dit « Hey, moi j'ai la vérité », les gens à côté vont dire non. Okay? Donc, ça rime à rien. Okay? Donc, dites, ben moi, je vois ça comme ça, et toi, comment tu le vois? Okay? Comment on peut tenter de faire arrimer deux réalités différentes? En thérapie conjugale, souvent, ce que je fais faire aux couples qui disent, c'est l'autre qui n'a pas raison, moi j'ai raison, parce que c'est souvent ça qui fait que le couple ne va pas bien. J'avais travaillé avec ça, avec Benjamin. J'ai des plastiques à la maison de différentes couleurs. Et là, mon mur du bureau est blanc. Je mets un plastique jaune devant quelqu'un, je mets un plastique rouge devant l'autre personne. Puis là, je leur dis, quelle couleur est le mur? Un dit jaune, l'autre dit rouge. C'est sûr, à travers le plastique. Okay? Et là, je leur fais comprendre que ce n'est pas parce qu'ils voient le mur différemment qu'il faut qu'ils tapent sa tête parce qu'on s'obstine que le mur est jaune ou que le mur est rouge. L'important, c'est de reconnaître que l'autre voit différemment que moi et qu'il faut que j'aille en considération, c'est-à-dire qu'il faut que je considère l'autre, il faut que je me considère moi, puis aller en considération, ce qui fait que je vais avoir un point de rencontre. Et là, après ça, vous allez pouvoir continuer à parler de Jésus, à parler de votre foi, à parler des évangiles. Okay? Mais ne vous affrontez pas. Okay? Si quelqu'un est musulman, si quelqu'un est islamique, si quelqu'un est bouddhiste, ah oui, ok, je trouve ça bien intéressant. Et là, de pouvoir échanger dans vos deux mondes différents pour arriver au point de rencontre. Ok? Des fois, ça arrive. OK, Karine? Donc, chacun des humains correspond à un niveau de conscience. Et le niveau de conscience détermine la vie de chacun. OK? On va aller à l'autre assez rapidement. Je fais... clic tout, tout, tout. J'ai fait l'analogie avec des animaux. Donc, le niveau de conscience chez l'être humain versus les animaux. OK? La taupe, c'est un animal qui vit dans la terre. Elle est dans les ténèbres. Elle vit en noirceur. Elle travaille très fort pour faire son chemin. Elle est très limitée. Il y a des gens qui, par leur psyché, sont, c'est pas fin, mais sont à l'état de taupe. OK? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On peut prier pour eux, en attendant que la lumière se fasse. OK? Qu'ils sortent un peu de la terre. Le deuxième animal que j'ai pu retenir, c'est le poisson. Le poisson vit dans l'eau. Il y a déjà un plus grand espace vaste. Il est moins limité, mais il est quand même limité parce qu'il ne peut pas venir dans la partie de l'air. Donc là, ça va être des gens qui présentent une psyché quand même ouverte, mais qui a des limites. Okay? Donc, on va dire des bornés. Là, il va falloir travailler fort, parce que là, on travaille plus que sur le concept de l'évangélisation, mais on travaille avec une personnalité poisson. Allez pas leur dire ça, exemple, OK? Vas-y, encore une fois. On a aussi des personnalités oiseaux. Encore une? Il reste juste une petite affaire, OK. Donc, l'oiseau, il y a des gens qui sont très ouverts. Il y a des gens qui aiment l'inconnu, qui aiment regarder, qui aiment flirter, ils sont très curieux, mais voilà. Donc, ce sont des gens qui ont une psyché libre et souvent beaucoup plus en harmonie. OK? Donc, je voulais vraiment vous dire que à partir du moment où j'ai mon niveau de conscience qui est très limité, dans les ténèbres limité ou beaucoup plus ouvert, bien, ça va me donner une personnalité différente. OK? On y va? On arrive à l'intention, donc dans la dernière partie. C'est ça là qui est le plus important, à mon sens, à moi. Donc, comme je vous ai dit tantôt, quand vous allez partir, questionnez-vous sur votre intention. Et là, je pars avec, vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait de ce verset-là. Okay? Quelle analyse que j'ai faite avec ce verset-là. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, l'intention, l'attitude. L'intention, là, c'est une grande puissance relationnelle. C'est ce qui donne la lumière. Imaginez ça, là. C'est pas vrai, là, mais c'est ce qui va donner comme ce qui m'enrobe ma lumière, l'intention. Et l'autre le saisit. L'autre le ressent. Si vous avez l'intention d'aller ramasser, je ne sais pas pour ceux qui sont papa, maman, vous allez vraiment là, chicaner votre garçon ou votre fille. L'enfant saisit très bien votre intention, même si vous ne le regardez pas et même si vous ne lui parlez pas, il saisit l'intention. Il dit, ouf, là, je m'en passe toute une. Okay? Si vous vous amenez devant votre conjoint, votre conjointe, et vous avez l'intention de jouer un tour ou de faire des chatouilles ou même si vous arrivez comme ça, déjà la personne en face de vous ressent l'intention. C'est du ressenti, c'est du feeling. Okay? Donc, c'est une grande, grande puissance relationnelle. On sous-estime souvent cette partie-là. Et ça, c'est « on récolte ce que l'on sème ». OK, bien, gardez cette phrase-là. Il ne nous arrive que ce que nous attirons par notre attitude. Vous vous souvenez tantôt, au tout début de la formation, quand je vous ai dit, quand je rentre en relation avec quelqu'un et que j'ai un conflit, il y a quelque part quelque chose qui m'appartient là-dedans. Quelle était mon attitude? Quelle était mon intention? Il faut se regarder là-dedans, au lieu de regarder l'autre. Donc, l'intention, l'attitude doit prendre assise sur deux concepts. Ça, c'est moi qui imagine ça ou qui crée ça. Okay? L'intention pour le disciple, l'évangélisateur, doit en même temps se déposer sur la sagesse et en même temps sur l'amour. Donc, c'est mon intention doit être un pied sur un pied sur l'autre. Je garde l'équilibre entre ça. On va aller voir la sagesse. La sagesse, c'est la lumière qui éclaire la conscience. Vous vous souvenez de la conscience des gens. Okay? Donc, vous autres, vous avez de l'information, vous autres, vous avez des connaissances, okay? Avec sagesse, avec indulgence, avec discernement, avec, c'est plus les qualificatifs cognitifs, vous allez pouvoir aller éclairer la conscience des gens. OK? Ça va? Donc, c'est important de voir, et c'est pour ça que je le marque ici, étudiez bien la nature de vos projets et de vos désirs. Ça, c'est la sagesse. S'il ne vibre pas avec l'ordre établi par Dieu, vous ne réussirez pas. La sagesse éclaire la conscience des gens. C'est clair? Ça va. Il faut vraiment regarder qu'est-ce que je suis en train de faire comme évangélisateur. Est-ce que je suis en train d'aller passer mes affaires à moi ou je suis en train de vraiment aller porter la parole de Dieu? Si je vais porter la parole de Dieu, ça va passer. Si je pense mes affaires à moi, ça ne passera pas. Un autre être humain n'est pas imbécile. Il le sent. OK? Allez, on y va. Donc là, c'est là où on va faire la différence entre le prosélytisme et l'évangélisation. Vas-y, Karine. Le prosélytisme, dans le dictionnaire, la définition, c'est ce zèle ardent pour tenter d'imposer ses idées, pour recruter des adeptes. Là, ça me satisfaisait pas, cette affaire-là. Fait que là, j'ai été chercher le mot adepte. Adepte, dans le dictionnaire, ça veut dire partisan convaincu d'une doctrine, d'un ensemble de croyances, d'opinions ou de principes. Donc, ça, c'est le prosélytisme. On va aller du côté évangélisation. Toujours dans le dictionnaire. Évangéliser, c'est l'action de prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Ben, c'est le message, les enseignements de Jésus-Christ. C'est de susciter ce désir chez la personne de retourner à une vie religieuse conforme aux préceptes évangéliques, aux enseignements de l'Évangile. En Matthieu 28, 19, comme Jonathan, je pense, c'est toi, hein, Jonathan, qui l'avait repris, il est écrit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux-mêmes mes disciples. » Et là, vu que j'ai été lire adepte, je suis allée lire disciple aussi, hein, pour être équitable. Donc, le disciple, c'est une personne qui suit les préceptes de l'Évangile, les enseignements de Jésus-Christ. Donc, cet après-midi, quand vous allez sortir, dans votre intention, est-ce que c'était d'aller faire du prosélytisme ou de l'évangélisation? Qui vous voulez avoir dans vos églises? Des adeptes ou des disciples? Donc, si vous autres qui ouvrez la porte, si vous amenez des adeptes dans l'église, là, les gens vont s'accrocher dans les doctrines et vous perdez l'essence même de l'évangélisation. C'est intéressant, ça. Okay? Donc, posez-vous la question. Est-ce que je vais faire du prosélytisme cet après-midi ou l'évangélisation? Il n'y a rien de grave, là. On peut s'en poser des questions, là. On n'est pas parfait, là. Okay? On continue. L'amour, maintenant. Quand je vous disais que l'intention, ça se dépose aussi du côté de l'amour, l'amour va dilater la conscience. OK? Afin de voir et de permettre l'émergence de la bonté des gens que vous rencontrez, il faut les considérer comme des créatures de Dieu, ayant une âme, un esprit, un cœur. même si l'étincelle divine n'est pas toujours visible, n'oubliez pas, c'est des fenêtres sur des yeux. Donc, même si on ne le voit pas, elle est là. L'objectif du disciple est de favoriser l'émergence de cette affiliation-là, cette affiliation divine. Okay? C'est notre mandat. OK, Karine? Certains, bon là, j'arrive sur autre chose. Certains ont appris ou pensent que l'individu qui ne reconnaît pas Dieu, qui n'accepte pas Dieu dans sa vie, est une âme perdue, est une âme condamnée. Okay. La parabole du retour de l'enfant prodigue semble réajuster cette perception qui pourrait être faussée en illustrant que le fils perdu, au vu de son père, n'est pas quelqu'un de condamné. C'est quelqu'un qui est égaré. C'est quelqu'un qui plus avec lui. Donc, un individu perdu, une âme perdue, ça c'est le cru de Harold, une âme perdue ne serait-elle pas cette brebis qui n'est pas à sa place, c'est-à-dire qui n'est pas dans la lumière de son Père céleste? Donc, quelqu'un qui n'est pas dans l'Église, c'est pas une personne à condamner. Peut-être que dans 2 ans, elle va être là, elle, dans l'Église, mais qu'elle n'est pas prête. Et c'est parce qu'elle n'est pas là qu'on doit la condamner, qu'elle est perdue, qu'elle va aller dans la GN, qui sommes-nous? Donc, ayons du respect pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Notre job comme disciple, c'est manifester l'amour de Dieu, l'amour fraternel, s'étendre d'une perche à l'autre, afin de lui permettre de ressentir et d'exprimer cette richesse de vie divine qui se niche à l'intérieur de lui-même. Il faut savoir comment aller mousser ça. OK? En Matthieu 5, 13 et 16, on dit que vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Et comment on va luire? C'est afin qu'il voit vos bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est ce que je fais. Et ce que je fais doit prendre assise sur ma qualité de pensée et ma qualité d'aimer. Et là-dessus, je vais faire de bonnes œuvres. Clique, Karine. Donc, donnez l'importance à la qualité de votre pensée, la sagesse, et de vos émotions, l'amour. Ainsi, vos actes, la volonté, porteront le sceau de la bonté. Hein, on fait une boucle avec ce qu'on disait au tout début de la formation. En Proverbe 19, 22, il est dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Il n'y a pas trop loin, là, OK? Si vous voulez être belles, les dames, si vous voulez être beaux, les messieurs, soyez bons. Soyez entourés de bonté. Et vous allez avoir un charisme extraordinaire autour de vous. Et vous allez pouvoir toucher beaucoup le cœur des gens. OK? Donc, on reprend le même verset. Vous allez voir dans quelle analyse que je suis tombée, que je me suis amusée. Dans Romains 10, 15, donc, on dit qu'ils sont beaux, les pieds. Les pieds, c'est ce qui nous amène à poser des actions, à aller, pour reprendre ce que Jonathan disait ce matin. Quels sont beaux les pieds quand tu vas? OK? Tu as une bonne volonté. En autant que ça annonce la paix, l'amour. Puis en autant que ça annonce aussi de bonnes choses, que ça soit fait avec sagesse. Donc, ce verset-là, je trouvais qu'il prenait beaucoup de sens pour moi. Un coup, j'en ai fait cette analyse-là. OK? Dieu trouve qu'on a de beaux pieds. Si on va porter la paix, l'amour aux gens, et si on va porter la sagesse, l'information, la connaissance aux gens. Et c'est à cette condition-là qu'on a des beaux pieds, des chrétiens. OK? On va aller vers la conclusion. Clique une fois, OK? Ah, oui, c'est correct. Tu peux cliquer tout, Karine. Donc, et là, je reprends ce que Jonathan, on ne s'est pas parlé, Jonathan et moi, on ne se connaissait pas. Donc, les obstacles sont là pour vous façonner afin de devenir des œuvres et des exemples d'une valeur inestimable. Donc, le malheur, votre malheur fait votre bonheur, oui. OK? Quand vous êtes dans une souffrance, ce n'est juste l'obstacle que pour aller vers une meilleure actualisation de vous-même. OK? Donc, vous serez... Vous serez perspicace et rigoureux, okay, tout en demeurant indulgent, souple, ouvert à l'égard des autres. Reconnaissez Jésus là-dedans. Jésus avait ces qualificatifs-là. Deuxième point, votre bonne intention, hein, l'intention qui est un pied sur la sagesse, un pied sur l'amour, votre bonne intention générée par ce respect à l'égard de tout ce qui existe générera ce verbe qui saura faire naître une communication constructive et enrichissante. Donc, même si j'ai plein de techniques, oubliez ça. Non. Allez-y avec votre cœur en premier. Puis après ça, les connaissances vont venir, l'esprit va pouvoir mettre sur votre bouche les choses. Mais il faut que vous soyez comme, ce que moi je dis en dedans, il faut être enligné avec Dieu. Puis comment je m'enligne avec Dieu? Bien, il faut que je sois ouverte d'esprit, puis il faut que mon cœur soit ouvert. Et là, l'esprit embarque. Et c'est là, après ça, je vais pouvoir dire des choses qui vont toucher le cœur des gens, pas moi, parce que je suis l'instrument. OK? Mais c'est ce courant-là qui pense. OK? Le disciple averti, là, vous êtes de plus en plus averti depuis hier soir, là. Le disciple averti travaille à éveiller respectueusement les consciences, les amener un petit peu plus loin. Dieu pourvoit à faire grandir la conscience de ses enfants revenus au bercail, revenus dans sa lumière. Notre job, c'est de les amener dans sa lumière à lui. Et quand l'être humain est dans sa lumière, que l'être humain est ouvert à la lumière de Dieu, c'est là où il devient de plus en plus un enfant de Dieu. Notre job, c'est de les amener dans la lumière. OK? Voilà. C'était la partie que je vous ai concoctée. Il est 3h30. Donc, je ne sais pas si...
Retour sur les trois questions que tu avais posées.
Ah! Bien, on l'a fait un peu, là, mais gardez ça pour vous autres, OK? Là, je veux dire, je veux pas avoir une discussion à propos de ça. C'est regarder votre intention. C'est correct? C'est pour la guitare, hein? Donc, regardez l'intention. Pour les deux premières questions, on disait, quelle est votre intention et qu'est-ce qui vous motive? OK? Si, dans ces deux réponses-là, bien, je veux dire, la réponse qui englobait, excusez, ces deux questions-là. Si vous aviez des allusions qui se rapprochaient de l'amour, si vous aviez des allusions qui se rapprochaient de la pensée, c'est-à-dire la qualité de mon intention, okay, toute la connaissance que j'ai, bien, vous êtes sur la bonne voie. Et quel que soit votre état intérieur, dans ce que vous allez aller tantôt, la peur, la motivation, la sérénité, la joie, l'important c'est de savoir, identifier avant d'aller rencontrer les gens, pour savoir qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce qui va appartenir aux autres. OK? Donc, si j'ai de la peur, ben si j'ai de la peur, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais au moins le dire avec celle ou celui que je vais faire aller, que je vais aller ou pas. J'ai peur. Restez pas toute seule dans votre peur. Après ça, c'est de dire, ben qu'est-ce que Dieu aide-moi pour la peur? Okay? Après ça, peut-être tout de suite commencer à confronter la peur en disant, oui, je vais aller voir d'autres êtres humains qui sont égaux à moi. Et je vais leur porter quelque chose. Mais ils ont la permission et je leur donne la permission de refuser. Et s'ils sont trop méchants, je laisse passer la méchanceté, je m'élève. Okay? Je ne suis que l'instrument de Dieu. Ils n'ont pas voulu, je me suis les pieds, je m'en vais. Mais prenez-le pas personnel. Okay? Mais si vous savez dans quoi vous êtes, avant de vous en aller, si vous êtes tout feu, tout flamme, tout très passionné, tout, excusez le terme, hyper, okay? Et puis que là, vous revenez ici tout à fait en bas, ben, ne soyez pas surprise ou surpris. Si vous êtes hyper, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas très réaliste. Okay? Donc, ramenez-vous dans quelque chose qui est beaucoup plus en équilibre. Okay? Descendez un peu. Dire, OK, oui, ça me fait plaisir. Ça se peut que je l'ai facile. Ça se peut que je l'ai moins bien. Moins facile aussi. Puis, préparez-vous à tout. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir en écho ce qui se passe en dedans à chaque fois que vous sortez. Parce qu'à chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, vous êtes différent.